Nous aurons maintenant la prédication et c'est Santosh qui va nous la porter. Alors, allez, viens vers moi. Ce sera l'occasion de prier pour lui. Seigneur Jésus, merci parce que nous sommes avec toi. Et Seigneur, merci parce que Santosh a une parole pour nous de toi. Et Seigneur, nous voulons te le remettre, que tu le bénisses. Seigneur, que tu lui donnes ce qu'il a besoin, que tu l'équipes, Seigneur, pour transmettre ce message. Et Seigneur, nous voulons te le remettre entre tes mains. Amen.
Ah, bonjour à tous. Salut Alex. Alors, je tiens juste à préciser une chose, je suis désolé pour la semaine passée, il y a eu un problème de micro, c'est pas que je ne parlais pas devant le micro, mais c'est que j'ai eu une panne de micro avec le micro-mouche, mais j'espère que cette fois vous m'entendez tous, et surtout il faut vous manifester si vous m'entendez plus. Alors c'est parfait. Voilà, donc en tout cas c'est vraiment avec plaisir que j'ai le privilège de vous partager la deuxième partie de ma prédication. Sur un thème un petit peu particulier, je l'avoue, c'est « Je ne voudrais pas être à sa place et son contraire ». Dimanche passé, en effet, j'ai pu vous introduire ce thème. Et pour rappel, c'était à Pâques de cette année que mon attention a été particulièrement touchée et retenue par un passage sur la crucifixion que beaucoup d'entre vous connaissent évidemment, qui se trouve dans Matthieu 26, les versets 67 et 68, que je voudrais simplement vous relire. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, ils lui donnèrent des coups de poing, d'autres le giflèrent en disant, « Christ, devine, dis-nous, qui t'a frappé ?» Ah, mais c'est bien de se manifester. Et ça va mieux maintenant ? Je baisse la tête. Bon, sinon je me mettrais directement au micro normal. C'est parfait. Alors, en entendant ces paroles, je me suis vraiment dit, je voudrais vraiment pas être à la place de ces soldats romains qui ont humilié le Fils de Dieu et qui finalement l'ont tué. Mais ce passage d'humiliation où ils se sont moqués de lui, ils l'ont giflé, ils l'ont frappé, et là je me suis dit, mais ils se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de faire ça au Fils de Dieu. Et j'ai trouvé que ce thème était intéressant à traiter en tant que prédication, parce qu'il y a d'autres personnages de la Bible que je n'enviais pas du tout. Mais pour pas rester uniquement sur quelque chose de négatif, je voulais aussi vous parler de son contraire, c'est-à-dire parler de personnages bibliques, mais aussi de personnages contemporains, des croyants de la vie de tous les jours, qui me donnent envie, que j'admire, et dont j'avais aussi envie de vous parler ce matin. Le fil rouge de ces deux prédications, c'est aussi le thème sur le judaïsme. Comme je l'ai dit dimanche passé, je suis désolé de me répéter, mais je pense que c'est important, je vais vous parler sur le fil rouge sera le judaïsme au sens spirituel et peut-être aussi sociologique. Mais ce n'est pas une prise de position par rapport à l'État d'Israël en tant qu'État-nation, c'est une prise de position personnelle, politique sur ce sujet qui est très vaste et très compliqué. Nous avons entendu trois passages la semaine passée, trois passages bibliques, et ce matin nous allons entendre deux passages. La semaine passée nous avons entendu l'histoire de la femme adultère, que j'ai rebaptisée, entre guillemets, les religieux hypocrites. Ces religieux qui ont voulu piéger Jésus, et qui à leur tour ont été repris par Jésus par cette fameuse phrase que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nous sommes également revenus sur le sujet que malheureusement, à l'époque de Jésus, mais aussi après, peu de Juifs ont reconnu Jésus en tant que Messie. Et c'est vrai qu'après les 20 siècles, peu de Juifs se sont convertis. Mais les choses changent. Et nous avons entendu un contre-témoignage, justement, d'un exemple d'un Américain, un intellectuel américain juif, qui s'est converti dans les années 70, Arthur Katz, et qui est son livre, en fait, c'est son journal intime, et c'est vraiment passionnant, parce que c'était un homme vraiment tourmenté par des questions existentielles, qui petit à petit a décidé de faire un voyage initiatique, qui l'a conduit de l'Europe jusqu'en Israël, Et durant tout son voyage, il a rencontré des signes de l'amour de Dieu, des personnes qui lui ont parlé du Christ, jusqu'en Israël, où il a rencontré une communauté de juifs messianiques, et là, il s'est converti. Ce matin, nous allons lire deux autres textes qui se trouvent dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 26 et Matthieu 27, et je demanderai à François et à Claudine de venir nous lire, à Francine et à Claude de venir lire les textes. Mais je trouve que ça leur va assez bien.
Ça date du camp de la Drôme.
Alors effectivement, nous allons lire dans Matthieu 26, les versets 69 à 75. Pierre est assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui et elle lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée ?» Mais devant tout le monde, Pierre répond « Non, je sais pas ce que tu veux dire. » Ensuite, il s'en va vers la porte de la cour. Une autre servante le voit et il dit à ceux qui sont là « Celui-ci est avec Jésus de Nazareth !» Encore une fois, Pierre répond « Non, je ne le connais pas, cet homme, je te le jure. » Un peu plus tard, ceux qui sont là s'approchent de Pierre et lui disent « Sûrement, tu es un des disciples, toi aussi. En effet, on le reconnaît à sa façon de parler. » Alors Pierre se met à dire « Que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme, je le jure. » Et au même moment, un coq chante. Pierre se souvint que Jésus lui a dit « Avant que le coq chante, tu diras trois fois que tu ne me connais pas. » Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup.
Les versets, toujours le chapitre 26, les versets 67 et 68. Alors, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres le giflèrent en disant, « Hé, Messie, c'est le prophète, dis-nous qui vient de te frapper. » Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique, « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, et prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.
Ce passage relate un des épisodes les plus douloureux de l'histoire des 12 disciples, qu'on appelle donc le premier passage le reniement de Pierre. Je vais me baser sur une prédication qu'Armand nous avait partagée il y a quelques mois sur justement sur Pierre. Pierre, donc appelé Simon, fils de Jonas, exerce le métier de pêcheur. Jésus est allé le chercher avec son frère André. On le décrit comme enthousiaste, déterminé, passionné, mais également faillible. C'est un des disciples dont l'Évangile nous relate le plus souvent. Il a une place de choix dans les évangiles. Il a participé à des événements extraordinaires de la vie de Jésus, dont évidemment la transfiguration, c'était un des événements clés, je dirais, de ce que les disciples ont pu vivre. Et aussi, Pierre est le premier à être rentré dans le tombeau vide. Donc on pourrait beaucoup l'envier, Pierre. Mais il y a ce passage-là, on ne voudrait pas être à la place de Pierre. Et ce passage est d'autant plus difficile pour nous de l'accepter que justement, quelques jours avant, Pierre va confesser sa foi à Jésus de manière incroyable, puisqu'il va le dire, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Aïe, on a envie de le dire, c'était une bonne occasion pour lui de se taire. Est-ce qu'il a fait preuve d'une grande lâcheté ou est-ce qu'il a fait preuve simplement d'une grande humanité? En tout cas, comme on l'a vu dans le texte, il a tout de suite ressenti un remords profond. C'est vrai que je n'aurais pas voulu être à sa place. Je n'aurais pas voulu être à la place de ce disciple dans la cour, questionné sur mon lien avec Jésus. Et je n'aurais pas voulu être non plus ce disciple qui se rend compte qu'il vient de renier son maître, qui vient de renier ainsi ce qu'il a confessé quelques heures avant, quelques jours avant, mais aussi ces trois dernières années qu'il a passées avec le maître. Mais on voit la bonté de Jésus. Vous connaissez tous ce chapitre 21 de Jean, où Jésus lui demande « Pierre, m'aimes-tu ? » Et à trois reprises, Pierre lui dit « Oui, maître, je t'aime. » Trois fois, comme pour réhabiliter Pierre, lui redonner confiance, il lui donne à trois reprises l'occasion de le confesser. Mais si Pierre a failli, il a failli sans avoir reçu la plénitude du Saint-Esprit, et ceci avant aussi la mort de Jésus. Mais si Pierre a failli, ça veut aussi dire que si lui a failli, nous on peut aussi faillir évidemment, et que nous devons tenir bon dans l'adversité. Je ne voudrais pas être à la place de Pierre, et son contraire. Par contraste, non au personnage de Pierre, en tant que tel, mais à son acte. Vous connaissez certainement des hommes et des femmes de la Bible, mais aussi dans la vie de croyants, qui ont tenu bon face à l'adversité. Et ce matin, je voudrais parler d'un de ces hommes que j'admire beaucoup, qui est un pasteur qui est mort, qui s'appelle Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas meilleur que Pierre, évidemment, parce que Pierre, c'était un des personnages de la vie chrétienne, les plus exceptionnels. Il a vécu des choses extraordinaires avant la mort et avant la crucifixion de Jésus, mais aussi après. Et là, et c'est certainement sur lui que beaucoup de l'Église chrétienne s'est basée. Mais je voudrais vous parler de cet homme, Bonhoeffer, qui a une vie tout à fait extraordinaire. Il est né le 4 février 1906 à Breslau. Et il va mourir en 1945 dans un camp de concentration en Bavière. Ce fut un théologien luthérien qui est connu par ses écrits et aussi par rapport à sa résistance au nazisme. Il va étudier la théologie à Tübingen à l'âge de 17 ans. Il est extrêmement brillant. Il va poursuivre ses études et réussir une thèse en théologie. Mais à partir des années 32-33, il va diminuer sa carrière universitaire pour plus s'engager dans sa carrière pastorale. Et son parcours coïncide avec la montée du nazisme. Peu à peu, l'idéologie nazie devient l'idéologie dominante en Europe, évidemment en Allemagne. Et dans le cadre de la montée du nazisme et de l'antisémitisme, Bonhoeffer va développer deux points importants de sa théologie. Alors on pourrait être pour ou contre, c'est une chose, mais il va quand même baser deux choses qui sont extrêmement importantes dans la théologie du XXe siècle. Premièrement, c'est que l'engagement spirituel du chrétien passe par un engagement politique. Et deuxièmement, que l'unité de l'Église des croyants est au-delà des frontières et par conséquent passe par le pacifisme en tant que chrétien de nationalité allemande. Ces deux points sont très liés entre eux pour Bonhoeffer. Il ne pouvait pas concevoir qu'un chrétien reste impassible vis-à-vis de la montée du national-socialisme. Et plus le temps passe, plus on sait qu'il deviendra très seul dans cette résistance. Tout cela sans que les églises ne montrent une quelconque résistance. Bien au contraire, puisque Hitler va décider de créer une église nationale avec l'accord de l'église luthérienne. Et cette église nationale va dominer l'Allemagne et va être exclusive. Aucun juif, aucune personne d'origine juive ne sera acceptée dans cette église. Ainsi, Bonhoeffer va rentrer gentiment dans une résistance active. Il développe ses positions dans ses écrits, dans ses prédications, mais également à la radio. Et petit à petit, il cesse de devenir un Allemand, pour devenir tout simplement un chrétien. Il désire, par amour du Christ, que son pays subisse la défaite. Combien est-ce qu'il y a de chrétiens en Allemagne qui ont eu une telle clairvoyance et un tel courage ? L'histoire nous l'a montré, malheureusement, bien peu. Et il va continuer d'affirmer que la guerre entre chrétiens d'Europe et du monde est une absurdité. Il défend la base doctrinale de l'union indiscutable et indissoluble des églises chrétiennes, quelle que soit leur appartenance nationale. Ainsi, il va fonder petit à petit une église confessante qui sera persécutée par l'église officielle. Et une fois que la guerre éclate, il devient hors la loi et traître à la nation. En 43, il est arrêté sous le chef d'inculpation d'affaiblissement potentiel de la guerre de l'Allemagne. Et même à l'approche de la défaite finale, Hitler ne va pas l'oublier. En 45, le 9 avril, deux semaines avant l'entrée des troupes américaines en Allemagne, Bonhoeffer est amené devant la cour martiale. Il est jugé coupable et condamné à la pendaison dans le camp de concentration de Flossenbürg. Dietrich Bonhoeffer se voulait enraciner dans le monde. Il le fut jusqu'au bout, jusqu'à se balancer au bout d'une corde comme un vulgaire criminel de droit commun. Accusation mensongère, exécution injuste qui nous rappelle la condamnation infamante de Jésus à la croix. Les croyants allemands, mais aussi d'Europe, n'ont pas été nombreux à rentrer dans une résistance contre cette épouvantable dictature qui, à l'ombre de la croix gammée, a massacré 6 millions de juifs, handicapés mentaux, des tziganes et des chrétiens authentiques. Personnellement, je suis en pleine admiration pour de tels chrétiens qui sont allés jusqu'au bout de leurs convictions, jusqu'au bout de leur amour pour le Christ et pour leur prochain, et qui se sont engagés à honorer l'Évangile. Les dernières paroles de Bonhoeffer ont été « Pour moi, c'est la fin, mais aussi le commencement. » Que Dieu nous aide à garder foi et à tenir ferme face à la persécution, mais à la persécution directe, mais aussi indirecte, et aux difficultés de la vie. That brought us here.
Prisoners strip.
Ceux qui ont maltraité et tué Jésus. Nous avons lu ces passages dans Matthieu 26 et Matthieu 27. Comme je l'ai dit, quand j'ai lu ces passages, je me suis dit, là vraiment, j'aurais pas voulu être à la place de ces prêtres juifs et de ces soldats romains qui ont frappé et qui ont humilié le Fils de Dieu et ensuite qui l'ont tué. Car il s'agit bien de cela. Ils ont condamné et mis en croix Jésus. Pour autant, faut-il dire que ce sont eux qui ont tué Jésus ? Qui a tué en fait Jésus ? Est-ce que vous êtes posé cette question? Il y a deux façons d'appréhender cette question, ce problème, sous l'angle humain et sous l'angle divin. Regardons l'approche humaine. Sur le plan humain, on peut dire, selon ce que les évangiles nous relatent, c'est Judas qui a livré Jésus aux prêtres juifs, qui à leur tour l'ont livré à Pilate, qui lui-même l'a livré aux soldats, qui l'ont finalement crucifié. Judas, les prêtres juifs, Pilate et les Romains. Ce matin, nous n'allons pas parler de Judas, nous allons parler directement des religieux juifs. Le rôle des religieux juifs, des chefs juifs, dont Caïphe, le grand prêtre, n'est pas mineur. Ce sont eux qui ont amené Jésus devant Pilate, qui ont incité la foule à demander la crucifixion. C'est eux qui ont dit « relâchez plutôt Barabbas », mais pas Jésus. Depuis le début de son ministère, Jésus a dérangé les institutions juives. En effet, Jésus faisait tout faux. Au lieu de respecter le sabbat, il guérissait le jour du sabbat. Au lieu de jeûner, il allait manger copieusement. Au lieu d'être avec les gens bien portants, les gens honnêtes, il allait avec les prostituées, avec les collecteurs d'impôts. Il a fait tout faux. Et en plus, Jésus dévoilait la nature vraie des gens, et surtout de ces pharisiens, de ces scribes, qui étaient pleins d'hypocrisie. Jésus a dénoncé que ces gens étaient plus attachés à la loi qu'au respect des personnes. Mais le pire, c'est que Jésus se déclarait fils de Dieu. Incroyable. Alors que quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand on regarde la loi de Moïse, c'était tellement saint, tellement important le nom de Dieu, l'Éternel. Et tout d'un coup, il fallait avoir évidemment un seul Dieu. Et tout d'un coup, un homme, en chair humaine, se déclare fils de Dieu, égal à Dieu. On peut se mettre un peu à la place de ces personnes, de ces chefs juifs, et se dire, c'est vrai que c'était un peu poussé, Jésus se déclarant fils de Dieu. Et pourtant, ces religieux n'avaient aucune excuse, parce qu'ils connaissaient la Bible, ils connaissaient l'Ancien Testament, ils connaissaient toutes ces bases. Et ils auraient dû voir que des petits prophètes, que dans les grands prophètes, en passant d'Ésaïe, Jérémie et tous les autres prophètes, tout se concrétisait autour de Jésus. Toutes les prophéties se réalisaient autour de ce personnage, Jésus de Nazareth. Une chose qui les a aveuglés, c'était l'orgueil. L'orgueil a aveuglé ces chefs religieux. Et cet orgueil les a poussés à la jalousie, et la jalousie les a poussés au meurtre. Et qu'en est-il de la responsabilité des Romains? Les premiers responsables de la mort de Jésus, ou les derniers dans l'ordre chronologique, sont les soldats romains, qui ont exécuté la sentence prononcée par Ponce Pilate. Ce sont eux qui ont, comme on l'a entendu, humilié, giflé, moqué, craché sur Jésus, et pour finir, ils l'ont cloué sur la croix. Certains récits historiques relatent les coutumes romaines associées à cette sentence. Tout d'abord, on humiliait le détenu, le condamné, en le déshabillant, en le mettant tout nu. Ensuite, on couchait la croix, on couchait le condamné. Ensuite, on faisait un trou à la base de la croix, on crucifiait le condamné et ensuite on relevait la croix. Et la personne, là, restait des heures et des heures devant les personnes qui pouvaient passer. On se moquait de lui. Et la personne qui était crucifiée mourait petit à petit, le plus souvent d'asphyxie. Et un des grands responsables reste évidemment Ponce Pilate. Il a été nommé procureur de la province de Judée. Il était connu pour être très méprisant vis-à-vis des Juifs. Il était connu pour être violent, emporté, cruel. Et dans ce passage, on découvre qu'il n'est pas seulement tout cela, il est aussi lâche. Il est convaincu de l'innocence de Jésus et à plusieurs reprises, il essaye de faire échapper Jésus, mais il n'arrive pas parce que tout le monde le pousse à le condamner, à condamner Jésus. Et face à l'obstination des Juifs, il baisse les bras et cède à la pression des prêtres et de la foule, tout en nous laissant de nouveau une expression qui est devenue dans le vocabulaire commun, il s'en lave les mains. Nous voyons donc que les Juifs et les Romains ont conclu une alliance impie. Ils s'accordent tous les deux pour condamner Jésus. premièrement pour une offense à Dieu et deuxièmement pour une offense à César. Nous pouvons voir donc que la responsabilité sur plan humain incombe autant aux Romains qu'au peuple juif. Et pourtant, après la mort et la résurrection de Jésus, il est devenu très à la mode de considérer que c'est le peuple juif qui est responsable de la mort de Jésus. Et ainsi, surtout à partir du Moyen Âge, est né l'antisémitisme moderne, avec la justification de la persécution des Juifs, puisque siècle après siècle s'est propagée cette persécution avec le point culminant qui était la Shoah. Évidemment, c'est totalement absurde. Et pourtant, dans Actes 4 même, dans la Bible, il est bien dit que la mort de Jésus était le résultat conjugué d'Hérode et de Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël. Et malheureusement, les chrétiens et l'Église en général ont une grande responsabilité dans l'antisémitisme. Mais heureusement, les choses changent. Il y a de la repentance et il y a aussi un changement de point de vue et d'action. Ça, c'était l'angle humain. Quel est l'angle divin qui pourrait expliquer la mort de Jésus? En fait, c'est le Père qui a livré Jésus. Et le Fils de Dieu, Jésus, s'est livré lui-même pour nous. Quelqu'un a très bien résumé cela de la manière suivante. Qui donc a livré Jésus à la mort? Non pas Judas, pour de l'argent, non pas Pilate, par crainte, non pas les Juifs, par jalousie, mais le Père, par amour. Ce n'est pas Judas, pour l'argent, ce n'est pas Pilate, par crainte, non pas les Juifs, par jalousie, mais c'est véritablement Dieu le Père qui a livré son Fils, parce qu'il nous aimait. Et Jésus n'est pas mort en martyr. Il s'est vraiment donné pour nous, volontairement. Et la réponse à tous les acteurs qui ont eu part à sa responsabilité de sa mort, qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et la mort de Jésus était la seule solution pour que les hommes et les femmes puissent être pardonnés de leurs péchés et recevoir le pardon de leurs péchés et recevoir le salut pour l'éternité. En conclusion, après avoir examiné la semaine passée la vie de ces pharisiens qui ont voulu piéger Jésus en lui présentant la femme adultère, la vie aussi de Pierre qui a renié Jésus et la méchanceté de ces prêtres juifs et des soldats romains qui ont humilié Jésus et qui l'ont ensuite tué, j'ai encore envie de dire, je voudrais vraiment pas être à leur place. Mais c'est vrai que plus j'y pense, moins j'en suis sûr de ça. Parce que souvent, quand je me dis je voudrais pas être à leur place de tous ces personnages, je me dis que souvent, j'ai été à leur place. Parce que souvent, j'ai été plus dogmatique que miséricordieux. J'ai été plus à l'aise à renier Jésus publiquement qu'à le confesser. Et surtout, je suis autant responsable de sa mort que les chefs juifs et romains, car la chaîne ininterrompue de responsabilité qui passe de Judas jusqu'aux soldats romains en passant par les prêtres juifs et Ponce Pilate, tous ces mobiles qui les ont poussés à livrer Jésus à la croix, c'est-à-dire la jalousie, la cupidité et la lâcheté font partie également de ce qui est en moi. Et c'est de ma faute donc. Ce sont mes péchés qui ont cloué Jésus à la croix. Et en même temps, c'était son choix d'être allé jusqu'au bout parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'a aimé d'un amour inconditionnel. C'est donc aussi de ta faute. Ce sont tes péchés qui ont crucifié Jésus à la croix. Et en même temps, c'était son choix d'être allé jusqu'au bout parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Que Dieu vous bénisse. Amen.